Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Air Diwa sur le 107.5 FM un peu partout dans le Diwa et puis bien sûr sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Michel Gentil. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ensemble un petit peu aujourd'hui, déjà parce que on va se représenter un peu. Enfin, tu vas te représenter surtout. Bon. Et puis, le Diwa te connaît quand même comme étant ce guitariste de talent, on peut le dire, qui tourne un petit peu dans le secteur. Et puis aussi, une actualité particulièrement intéressante, tu sors peut-être la première méthode un peu concrète d'apprentissage à la guitare 12 cordes. Oui. Alors je te laisse te présenter d'abord, Michel.
Bon, écoute, les Diwa me connaissent en partie, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis là. Et c'est vrai que comme c'est mon métier d'être guitariste, on n'est pas très nombreux dans ce métier, donc je suis un peu le guitariste du coin, on va dire. Où je l'ai été, je le suis un peu moins maintenant parce que j'ai trop bougé. Mais
tu nous as fait quand même pas mal de concerts dans le coin. Ça,
oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de concerts dans le coin. Je vais en refaire un le 3 février avec Alexis Haigi, le violoniste russe qui habite entre Die et Moscou. Et on avait joué il y a 2 ans, donc j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, ce concert du 3 février à 20h30 au Baradi avec Alexis. Mais pour me présenter, disons que je suis originaire du centre de la France, de Blois, pour être clair. Mais je suis un déraciné comme pas mal de Français. Et je suis passionné de guitare, j'ai très vite orienté mon intérêt vers la guitare à 12 cordes. J'ai fait un voyage aux États-Unis d'un an quand j'avais 18 ans. Au lieu d'aller à l'armée, j'ai opté pour le voyage et je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de découvrir des choses de la vie, non pas de la mort.
Et donc, sans réforme, tu as déserté?
Non, j'ai pas déserté, mais j'ai essayé de me faire réformer en passant les trois jours. Là, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné à la fin lorsque j'ai essayé de me faire déclarer un peu fou. Je pense que ça devait être un peu le cas parce que le gars il m'a vu bégayer. À un moment donné, il m'a dit: vous voulez être réformé? Je lui ai dit: attendez, je voulais encore vous raconter cette histoire. J'avais perdu les pédales littéralement, tellement j'avais envie de me. Ça a fonctionné, donc j'ai gagné comme ça un an, même deux, parce que j'avais décidé d'être objecteur de conscience, évidemment. S'ils n'étaient pas radiés. Et finalement, ayant été radié de l'armée, et même dans un certain niveau, puisque je suis même pas demandé, on ne me demandera pas de fabriquer des armes, je suis encore trop incapable de ça pour l'instant. Donc ça me va, pour l'instant c'est bon. Et donc cette année-là que j'ai économisé, je l'ai passée aux États-Unis où j'ai découvert évidemment la guitare. Je la connaissais un petit peu, mais des guitaristes, j'ai rencontré et j'ai découvert un peu ce métier de qui consiste à jouer devant des gens là-bas, en jouant dans les cabarets de San Francisco, surtout pendant 6 mois en 1975. Ça fait longtemps.
Et c'est là que tu découvres la guitare 12 cordes.
Alors je l'avais découvert juste avant de partir et ça m'a confirmé dans ma passion là-bas, puisque que j'ai rencontré quelqu'un qui jouait très très bien, qui m'a dit: écoute, achète-toi une 12 cordes. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, je suis devenu 30 ans plus tard, à force de jouer sur cet instrument comme mon instrument principal et non pas comme un instrument en plus de la 6. Étant donné que j'ai passé beaucoup de temps sur cet instrument-là, je suis devenu, malgré moi, un spécialiste. Je déteste les spécialistes, mais bon, tant pis, c'est comme ça, je suis dedans un peu. Et je voudrais quand même, du coup, comme ça fait 30 ans que je travaille cet instrument d'arrache-main, si je peux me permettre de parler comme ça, j'ai à un moment donné, je me suis dit: zut, c'est quand même bête, toutes ces techniques que j'ai pu accumuler ou glaner au fil de mes voyages, au gré de mes voyages, ou aussi développer moi-même à Boulk, dans ce petit village où j'habitais 5 ans et j'ai joué 15 heures par jour pendant 5 ans. Je me suis dit: c'est bête de ne pas en faire profiter les autres. Donc j'ai commencé il y a 22 ans, à l'occasion d'un stage de guitare à 12 cordes que je donnais, de mettre sur papier un peu les éléments importants, constitutifs de la logique de fonctionnement de l'instrument. Et finalement, j'arrive au bout de ce travail, donc 22 ans plus tard, avec une sorte de bouquin d'une 135 pages, des exercices, etc.
Excuse-moi, avant qu'on aille plus loin, oui, et qu'on présente précisément le truc, je voudrais justement qu'on comprenne là, parce que donc on a parlé de guitare, mais donc on est bien en train de parler de guitare de 12 cordes. Ouais. Guitare 12 cordes, d'ailleurs, tu parlais des États-Unis, mais qu'on entend assez particulièrement dans la musique folk des États-Unis américaine.
Entre autres, ouais.
Entre
ouais,
autres, ouais. Beaucoup. Enfin, je pense que les gens doivent, en tout cas, dans la country un peu.
Oui, voilà.
Et juste justement, tu soulèves autre chose qui est qu'on n'apprend pas la guitare 12 cordes comme on peut avoir des cours de guitare classique.
C'est curieux.
C'est quelque chose d'autodidacte alors.
Alors c'est très bizarre parce que c'est une drôle d'histoire. Parce que cette guitare 12 cordes, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, elle a plutôt tendance, selon moi, à être l'ancêtre de la guitare à 6 cordes. Puisqu'autrefois, il n'existait pas d'instrument à cordes dont les cordes ne soient pas au moins doublées. Ça fonctionnait au moins par deux cordes. On appelle ça un chœur, deux ou trois cordes l'une à côté de l'autre, qu'on pinçait en même temps. Et ça permettait d'avoir une résonance par sympathie énorme et aussi une durée, on appelle ça un sustain, plus long. Donc en fait, lorsqu'on s'intéressait beaucoup au son, à la qualité du son acoustique, alors on fabriquait des instruments à cordes qui fonctionnaient avec des chœurs. Et la guitare 12 cordes en est un des... vient de là. La guitare de Louis XIV avait 5 chœurs. D'ailleurs, il paraît que Louis XIV jouait très bien de la guitare de la Renaissance.
Ce qu'on peut appeler la guitare classique était plutôt dotée d'un certain nombre de cordes et ça a été simplifié en 6 cordes plus tard. Quoi.
Voilà. Lorsqu'on a voulu, au niveau du son, notre oreille a changé. L'oreille sociale, j'appelle ça l'oreille sociale, l'oreille évolue. Autrefois, on entendait dans une seule note beaucoup d'harmoniques, on appelle ça des harmoniques, beaucoup de notes dans une seule. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité d'entendre ça parce qu'on entend d'autres notes à côté. On est capable, par contre, d'entendre des accords. D'entendre des accords de 3, 4 sons en même temps. Des accords, c'est-à-dire plusieurs notes en même temps. Mais si vous allez en Inde, vous constaterez que même les grands professeurs de musique indienne, ils ne savent pas faire ça. Ils n'entendent pas 4 notes en même temps. Ils ont beaucoup de mal. Par contre, ils ont développé d'autres capacités. Donc ce que je veux dire, c'est que notre oreille a changé. Et l'oreille de la 12 cordes, la 12 cordes, c'est un peu une réminiscence du son d'autrefois. Et la passion qui touche les gens qui s'intéressent à la 12 cordes, c'est parce qu'ils sont touchés par le son. Donc en fait, les gens qui sont intéressés par la 12 cordes sont particulièrement sensibles au son.
Donc on a parlé un peu de cette oreille absolue, en fait, qui est musicale, qui est perdue notamment par le traitement actuel qu'on fait du son.
Alors c'est pas l'oreille absolue, c'est encore autre chose, c'est la hauteur. L'oreille absolue, c'est lorsque quelqu'un, chez nous par exemple, est capable de dire « Ah, j'entends une note, ça c'est un do, ça c'est un ré », de donner un nom à la note qu'il entend.
D'accord.
Je suis pas personnellement un fan de l'oreille absolue. D'abord, je rencontre pas mal de gens, quelques personnes qui ont l'oreille absolue, qui sont très dérangées, parce qu'à chaque fois qu'ils entendent un son, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, c'est un ré, ah, il n'est pas tout à fait juste ». Et d'autre part, l'oreille n'est pas absolue, justement. Elle est relative. Et les Indiens, de ce point de vue-là, ou les gens dans les musiques, on va dire, chez nous, c'était pareil avant la Renaissance, en fait, qui a été le moment de changement là-dessus. Autrefois, on ne cherchait pas à faire un do pile poil à cette hauteur. On cherche à faire le do qui nous correspond le plus, c'est-à-dire celui un peu plus aigu aujourd'hui parce qu'on est un peu plus excité, un peu plus bas le lendemain parce qu'on est un peu fatigué. On choisit la hauteur du son en fonction de notre état. Et donc, on peut jouer une musique plus efficace de ce point de vue-là. Ça se défend tout à fait. Donc l'oreille absolue, elle est utile, mais elle n'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'ai pas l'oreille absolue, sauf quand je téléphone souvent, lorsqu'il y avait un la en tonalité, je savais où était à peu près le la, donc c'était bon. Je n'ai pas l'oreille absolue, je ne regrette pas du tout, et ça me préoccupe. En tout cas, mon but n'est pas que mes enfants l'aient.
Oui. Alors on va parler plutôt de disharmonie, en fait. Cette notion de disharmonie que nous, on peut avoir, tu parlais de musique indienne, donc c'est la sitar, ce genre de...
Ouais.
Qui va donner cette espèce de grain un peu étrange les Occidentaux apprécient quand même maintenant mieux qu'avant.
Bien sûr.
Et c'est ça qu'on aurait perdu alors avec ce passage de la Renaissance peut-être.
Ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a eu envie de faire au moment de la Renaissance. On a tempéré la musique. C'est une longue histoire, mais je ne sais pas si ça va intéresser. Autrefois, on faisait les notes les unes après les autres. On faisait un do, après on faisait un ré, après on faisait un mi, on revenait au ré, etc. On ne faisait jamais plusieurs notes en même temps. C'était une mélodie. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, ça s'est fait sur des siècles. On a voulu faire plein de notes en même temps, créer de l'harmonie, c'est-à-dire jouer plusieurs notes en même temps, faire des accords. Ça, c'est récent dans l'histoire de l'humanité, et c'est chez nous que ça s'est fait. C'est nous qui avons fait ça. On a dit, on va faire plusieurs notes en même temps. Au moment de la Renaissance, disons, ça a été le tournant. Mais en faisant ça, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait deux dos, l'un en bas, l'autre une octave au-dessus, par exemple, ça colle pas tout à fait, les deux, quand on les joue en même temps, il y a une petite vibration qui gênait l'oreille. Et là, on a dit, Bach en particulier en fait partie de ce mouvement, il a dit, on va réduire l'écart entre les deux dos, artificiellement, comme ça, et comme ça, on va pouvoir les jouer ensemble, ce ne sera pas disharmonieux à l'oreille. Et donc, on a tempéré la musique, alors que les notes n'ont pas été inventées par l'homme, mais trouvées dans la nature, puisque lorsqu'on fait un do, dans ce do, il existe un sol, et on peut trouver le sol, dans le sol, il existe un ré, etc. Donc, les hommes de la préhistoire ont trouvé les notes, ils ne les ont pas inventées, elles étaient déjà là. Donc, on a réduit l'écart entre les deux do. En faisant ça, on a ouvert la porte de l'harmonie, donc des orchestres symphoniques, bravo, super, mais on a perdu énormément, on n'a pas fermé complètement, mais on a perdu énormément dans le timbre, dans le son, dans la qualité du son. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à associer des instruments, ce qui donne effectivement, un orchestre symphonique, ça a du son, on ne peut pas dire le contraire, mais le son au sens de la vibration, au sens du son acoustique naturel, celui-là, il a été perdu. Or, ça, c'est la dimension la plus profonde de la musique. Ce qui veut dire qu'on est plus dans l'esthétique et moins dans le sensible. Alors là, quand même, problème.
Peut-on parler d'un formatage de la musique à partir de cette époque alors ?
Toujours, ça a été formaté, je suppose, même avant. Aujourd'hui, bien plus que jamais, bien sûr, puisqu'on est dans une période dédiée au formatage. Non, je ne sais pas si c'est... Il y avait des gens à l'époque qui devaient être aussi en recherche et donc en contradiction avec les normes de l'époque aussi. J'ai rien contre la musique tempérée. Je trouve que c'est une très très bonne... C'est fantastique d'avoir inventé ça. Par contre, il faut savoir ce qu'on fait. Et quand on fait de la musique tempérée et qu'on oublie l'existence de la musique non tempérée, on est capable par exemple de dire « Ah oui, mais les Indiens, leur musique, elle m'ennuie, au bout d'un moment, il ne se passe rien. » Or, ce qui se passe en réalité, c'est que celui qui dit ça, il n'entend pas ce qui se passe. Ça veut dire que c'est un manque d'ouverture. Donc, faisons de la mondialisation dans le bon sens, comme savent le faire les artistes, et pas les économistes, on a bien vu, c'est-à-dire par admiration mutuelle. On admire un autre musicien, on le rencontre, on voudrait savoir comment il fait, et lui, il est comme ça aussi avec vous, et l'échange se fait, et c'est une mondialisation par le haut. Donc, je suis pour.
Très bien, ça me rappelle, et je glisse une petite promo pour nos auditeurs et nos autres émissions. Louis a interviewé il n'y a pas très longtemps Doro Dimanta, que tu dois sans doute connaître, peut-être pas, et donc qui est un musicien africain qui, lui, a étudié, après ses codes de musique africaine, la musique, le jazz et le saxophone notamment, à l'occidental, et donc il arrive cette fusion des deux. Voilà, ouais. ça me fait penser à ça. Bon, revenons sur cette guitare, il y a un autre aspect que les auditeurs ne voient pas, mais tu es complètement... bagué de toutes parts. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'as pas d'ongles et que tu ne veux pas en avoir ou est-ce que bagué. C'est parce qu'il faut une technique particulière
voilà,
aussi pour ça
je me suis fait pigeonner sur ce coup-là. Non, mais ce n'est pas des bagues, ce sont des...
Oui, ce sont des ongles, quoi.
Des onglets, on appelle ça. Mais effectivement, ça remplace les ongles. Ce sont des sortes d'effectivement de bagues qui font qu'il y a un petit bout de métal qui dépasse au bout du doigt, qui est enserré dans une petite pince comme ça. Ça permet, ce sont effectivement des prothèses quand même, ça permet de jouer avec une certaine précision. Donc, mais si j'ai choisi de jouer avec des onglets, c'est surtout pour une question personnelle. J'avais eu un petit accident sur un doigt, ce qui fait que mon ongle avait mal repoussé. Et le son de cet ongle n'était pas le même que le son des autres ongles. Donc, quand je commençais à faire un arpège, j'avais un truc un peu rythmique qui était là, que je ne voulais pas, que je n'avais pas le même son. Donc j'ai choisi des onglets. Je m'y suis mis depuis l'âge de 17 ans. Donc je suis complètement habitué à ça. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile de s'y adapter. Il faut quelques jours, quelques semaines pour retrouver son aisance de jeu habituelle. Mais il y a ses avantages et ses inconvénients.
Et donc ça modifie quand même un peu le son aussi produit, puisqu'il y a ce côté métallique.
Voilà, ça va métalliser un petit peu le son, il faut aimer ça. En même temps, ce que je dis toujours, c'est qu'on peut jouer aussi très fort avec les onglets, peut-être plus fort qu'avec les ongles seulement. Mais bon, rien ne remplace le son de la pulpe du doigt non plus. C'est-à-dire tout est utile, tout est bien. Je ne prône pas l'utilisation des onglets. Je ne dis pas que c'est mieux de jouer avec des onglets de la 12 cordes. Je ne crois pas. J'ai choisi les onglets pour une question personnelle. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voilà.
Et pour terminer, est-ce qu'enfin on peut quand même faire des accords sur de la 12 cordes ?
On peut, hein. On peut.
Oui, on a le droit de faire des accords et on n'est pas obligé de jouer qu'en arpège.
Bien sûr, bien sûr. Non, la question qui est posée, et c'est pour ça que c'est ça, me semble-t-il, l'intérêt de la méthode que je suis en train de finir là, c'est que la plupart des gens qui ont joué de la 12 cordes jusqu'à maintenant en ont joué exactement comme de la 6 cordes. Et c'est vrai que c'est possible, parce que chaque corde est doublée. Alors là, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, disons que les deux aigus sont doublés par la même. Hein. On a un son comme ça, ici, sur les deux aigus. Donc c'est deux mi, ici deux si. Et ensuite, le sol habituel de la 6, qui est là, mais lui est doublé par celle-là, et non pas la même. C'est l'octave au-dessus. Et ça, ce sera d'ailleurs la corde la plus aiguë de la guitare. Pareil pour le ré, qui est plus grave ici, doublé par une aiguë. Le la, doublé par une aiguë.
octaves au-dessus. Hein. Là, c'est un ré. Je double. Donc, j'ai quatre nouvelles octaves, quatre nouvelles cordes. Et en fait, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que je vais jouer chaque corde séparément et pouvoir mixer entre elles, non pas six cordes, mais dix. On imagine le nombre de combinaisons supplémentaires par rapport à la six cordes. Donc, il y a là tout un panel de techniques qui n'ont pas été répertoriées réellement. Et c'est ce travail que je suis en train de faire. Là.
Alors, tu nous fais une petite démo et puis on parle tout de suite de cette méthode.
Alors, allons-y. On va dire une démo en forme d'improvisation. Hein.
Merci. Ça m'a tout de suite fait penser à certains artistes type Ben Harper ou John Bolter, pour ceux qui connaissent,
ouais.
Mais qui, eux, a priori, tournent à la guitare slide et ça faisait étonnamment le même son, c'est bizarre.
Non, il y a des gens, il y a des guitaristes qui jouent comme ça dans le monde depuis déjà un certain temps. Mais c'est vrai que ces deux guitaristes, ces deux personnes dont tu parles, enfin, John Butler surtout est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il représente bien effectivement, on est dans un courant assez proche, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Et pourtant, il n'est pas à la 12 cordes, si ?
Je crois pas. Non.
D'accord.
Non, c'est plutôt, là, il y a une question de style, d'influence musicale. Hein, c'est encore autre chose, c'est une question de goût.
D'accord, alors là, c'est plutôt le style musical qui fait qu'on peut avoir cette...
Je pense, parce que ce morceau, ce petit bout de ce thème, là, je l'ai trouvé quand j'étais justement aux États-Unis à l'époque, dans la musique West Coast. Musique West Coast, c'est la musique des hippies, hein, donc ça date déjà d'un certain temps. Mais bon, faut pas non plus... les choses qui façonnent une génération se retrouvent après, il n'y a pas de problème, ça continue.
Parlons donc de cette méthode.
Disons que...
du projet, si tu veux, voilà. Même.
L'ensemble. Pour décrire l'ensemble, donc j'ai un livret de 135 pages avec 200 exercices à peu près, et puis un DVD qui va faire 60 et quelques exercices, donc où on peut voir vraiment les deux mains avec des caméras séparées, et également l'équivalent de deux CD. Donc c'est quand même un gros boulot, une sorte de compilation de tout ce que j'ai su, de tout ce que j'ai appris sur cet instrument. Alors, quand je fais ça, je parle de la 12 cordes, jouer chaque corde séparément, puisque la main droite peut arriver à choisir la petite aiguë dont je parlais tout à l'heure, sans avoir la grave. Et donc, c'est une technique très simple, hein, mais peu de gens l'ont pratiquée, très très peu. Et quand on fait ça, quand on joue la 12 cordes comme ça, non seulement on se fatigue moins la main gauche, puisque quand on joue comme une 6 cordes, étant donné qu'il y a deux cordes sous chaque doigt, évidemment, on se fatigue, c'est normal. Donc, c'est pas fait pour être joué exactement comme la 6. Et puis, surtout... On accède à tout ce potentiel. Et or, il est beaucoup plus important que celui qu'on entend couramment. Souvent, la 12 cordes est jouée effectivement en accord. Et alors, on se dit quel son. Oh là là, c'est magnifique. On a raison, mais. Mais bon, quand on commence à jouer comme ça, ça donne autre chose. Et là, on a affaire à un autre instrument. Là, on utilise les cordes séparément. Et ça, la 6 cordes ne peut pas le faire. Donc. Pas mieux que la 6 cordes, hein. C'est différent. Et mon propos est de faire comprendre, justement que c'est pas la peine de jouer de la 12 comme de la 6, il faut en jouer comme de la 12. Et donc voilà, je pose quelques bases, et apparemment personne n'avait fait ce travail avant de, disons, élaborer ou poser. J'ai rien élaboré, j'ai simplement décrit. Donc je pose quelques bases théoriques sur le fonctionnement de l'instrument. Je pense que c'est pas exhaustif, il y a d'autres gens qui vont certainement rajouter des choses, mais ce travail là n'avait pas encore été fait. Curieusement, on a des centaines et des centaines de méthodes de 6 cordes. La 12 cordes fait un peu peur, on se dit il y a deux cordes, et justement elle fait peur parce qu'on l'utilise trop comme une 6. Donc mon propos c'est ça, c'est de dire utilisez-la comme la 12 et vous verrez, ça va vous ouvrir un autre univers.
Ouais, donc en fait les gens se ferment sur l'instrument par sa complexité ou simplement parce qu'elle sonne mieux qu'une, enfin avec plus d'ampleur que la 6 cordes.
On est attiré voilà par le son parce que beaucoup de gens sont sensibles au son quand même tout autant et donc on est attiré, et en même temps on achète cette guitare, puis après on se rend compte que c'est dur quand on veut l'utiliser comme une 6 cordes, comme il n'existe pas de façon connue de jouer autrement. Tout le monde fait pareil et au bout d'un moment tout le monde se fatigue et tout le monde la remet au grenier pendant quelques années, puis de temps en temps il y en a un qui la ressort. Ou un chanteur comme Francis Cabrel, par exemple, va dire, bon, je vais mettre une chanson de mon show, une chanson en 12 cordes, ça va changer un peu le son, ça va donner un peu d'ampleur de son, et c'est tout. C'est-à-dire que la position de la 12 cordes, elle est actuellement plutôt marginale, marginalisée et sous-estimée. Donc j'espère participer à faire redécouvrir cet instrument qui en fait dont l'origine est peut-être plus ancienne même, qui me fait revenir très 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 loin dans le temps.
Et alors on évoquait hors antenne la possibilité que cette méthode soit peut-être un peu orienté très rapidement vers un public qui a priori est initié ou a envie de s'affiner peut-être.
Alors oui, là j'avoue que moi je suis pas un professionnel du système commercial. On est dirigé par une société de commerçants et nous les artistes on est obligés de l'être un peu si on veut arriver à survivre. Mais enfin on va dire que j'ai mis tout ce que je savais là-dedans. Autrement dit, j'ai fait le pavé, là. C'est une sorte de pavé, mon histoire. Et peut-être que si je veux... Donc, je vais toucher les gens qui sont réellement passionnés, je pense dans le monde entier, mais réellement passionnés. Si je veux toucher un plus grand public, comme on dit, le grand public, cette expression détestable, alors il faudra que je fasse quelque chose d'un peu plus facile d'accès, pour reprendre quelques exercices simples, et puis probablement enregistrer quelques chansons un petit peu connues, adapté à la 12 cordes pour donner envie. Et ça, c'est peut-être un projet que je pourrais développer par la suite. Là, j'avais besoin de faire le gros pour pouvoir après trier et prendre quelque chose de plus simple. Par contre, dans le gros, il y a tout le simple.
Et est-ce que cette méthode pourrait être reprise et puis augmentée? Est-ce que tu envisages une collaboration aussi du fait tu puisses toucher comme ça d'autres musiciens de par le monde et...
Même plus que ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, je suis, comme je disais, devenu un spécialiste, mais je n'ai pas fait exprès. Mais bon, c'est parce que voilà, c'était mon instrument principal. Or, la plupart des guitaristes ont une 12 cordes comme instrument secondaire, ceux qui en ont une. Donc j'ai effectivement passé beaucoup de temps sur cet instrument-là, et du coup je suis dans cette position. Mais je sais plus redis-moi la question parce que j'ai perdu le fil.
Et on parlait de la possibilité de collaborer, de faire que la méthode devienne collaborative, je veux dire, pardon.
Oui, alors du coup c'est tellement peu connu et tellement sous-estimé que j'ai organisé quelques stages, et avec certains stagiaires, l'idée s'est fait jour de fonder une association qui pourrait aider la 12 cordes à se faire connaître. Et donc, je suis en train de réfléchir à quelque chose qui permettrait, lorsque la méthode sera lancée et sortie vraiment, d'amener d'autres guitaristes 12 cordes et de leur dire, rajoutez ce qu'il y a à rajouter, ce que vous avez trouvé, de façon à ce que dans 10 ans, on puisse sortir une véritable méthode universelle vraiment de 12 cordes. C'est pas le cas de la mienne. Là, c'est un premier essai de théorie sur le fonctionnement de l'instrument et puis 200 exercices. Bon, d'accord. Il y a de quoi quand même rentrer dedans et travailler pendant des années. Mais, effectivement, la porte est ouverte pour que un de ces jours puisse sortir une méthode exhaustive. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est le tout début. Donc l'association, c'est mon but là maintenant. Je vais essayer de fédérer, et pas seulement en France, mais un peu dans le monde entier, des gens qui mettent leur énergie en commun pour défendre un petit peu ou relancer un petit peu cet instrument qui est quand même sous-estimé aujourd'hui.
Parce que j'entends quand même deux choses là. Tu parles, on parle bien de la France et de la manière dont l'instrument peut être perçu en France. mais finalement il y a quand même des endroits où il est bien perçu, les États-Unis notamment.
J'ai joué, moi j'ai appris la 12 cordes beaucoup aux États-Unis, donc il y a quelques personnes, notamment Leo Kottke, qui ont beaucoup fait connaître la guitare à 12 cordes là-bas. Et il utilise lui aussi un petit peu ses techniques. C'est d'ailleurs à partir de là que c'était ma première forte influence. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens. Et quand j'ai joué au Québec là, en juillet dernier, je me suis rendu compte que j'avais à convaincre également là-bas. C'est-à-dire que la plupart des gens là-bas aussi utilisent la 12 comme une 6. Donc ils se fatiguent exagérément, etc. Et quand ils voient comment je joue, ils me prennent pour un extraterrestre parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Alors ce n'est pas plus compliqué, mais c'est une autre logique. Et donc, il y a tout le boulot à faire aussi là-bas. D'ailleurs, c'est un peu mon intention, c'est-à-dire, j'ai appris aux États-Unis, je vais revenir là-bas en leur disant, regardez ce que j'en ai fait, ça va vous intéresser. Et je pense que c'est déjà le cas, puisque j'ai quelques réactions de cet ordre-là, là-bas.
Ça me fait penser à plein de styles musicaux qui, en passant par la France, on peut faire cocorico, repartent quand même.
Mais je suis très étonné. En France, on ne connaît pas, mais il y a des groupes français qui sont professionnels et qui tournent professionnellement aux États-Unis, qui sont reconnus aux États-Unis, totalement inconnus en France. Voilà.
Bon. Est-ce que toi-même tu es plus connu à l'étranger qu'en France ou dans ce certain milieu que tu disais ?
Je dirais dans certains milieux oui. Je ne sais pas si je dois répondre oui parce que c'est quand même. J'ai surtout tourné en France pratiquement toute ma carrière. J'ai fait quelques concerts à l'étranger de temps en temps. Je ne suis pas vraiment un artiste international comme d'autres le sont. Donc, je me rends compte par Internet avec cette évolution-là, cette facilité de communiquer loin, c'est que effectivement, il y a plein de gens du monde entier qui viennent voir mon site et qui se disent tiens, comment ça marche ça. Puis comme il y a des exercices qui sont déjà posés, les premiers exercices de la méthode sont posés dessus. Mon site, c'est michelgentil.com, je le signale au fait. Et Michel Gentil, ça s'écrit en un seul mot et ça se termine par G-E-N-T-I-L-S, I-L-S comme l'adjectif au pluriel. Donc en regardant mon site, ils m'envoient des mails et du coup je suis en communication avec des gens un peu partout. Mais je pense quand même que c'est surtout en France et en Europe que les gens me connaissent. Quoi.
Et alors cette méthode, elle sera en vente depuis ton site internet. Tu vas l'autoproduire, tu nous disais.
Oui, parce que c'est peut-être une chance.
Ça c'est quand même important de le
dire. Oui, je lance ces jours-ci une souscription d'ailleurs pour la fabriquer. C'est quand même un énorme travail. Hein. Un DVD, ça peut coûter 20 000 euros, un DVD 60 000 euros des fois. J'ai dépensé beaucoup d'argent et de temps dans tout ça. Et voilà, c'est le moment que je demande un peu le coup de main pour sortir tout ça. Ça va sortir fin mars, elle est prévue pour fin mars. La souscription, je la lance dans les 2-3 jours qui viennent là. Donc en gros. Alors pourquoi ?
Est-ce que des gens qui nous écoutent là, par exemple, les auditeurs, pourraient souscrire ?
Seulement les gens qui sont réellement intéressés par la 12 cordes, sinon ils vont être déçus. Parce que c'est vraiment un gros travail sur la 12 cordes et c'est pas quelque chose juste comme ça pour regarder 5 minutes.
Ou investir parce qu'ils ont envie de soutenir ta démarche aussi.
Alors ça peut être bien, mais c'est vrai, j'aime bien ça. Mais comment dire, j'aime bien la démarche d'être autoproducteur. Pour une question strictement économique et politique. C'est-à-dire qu'on a bien vu comme pourquoi, on sait bien pourquoi les boîtes de disques elles se cassent la figure maintenant, c'est parce qu'elles ont fait du mauvais boulot, tout simplement. Mmh. Ils ont choisi des mauvaises musiques, ils ont voulu faire des tubes, fonctionner à la concurrence, tout ça, ça ne marche pas. Donc ils sont en faillite, c'est normal. Donc nous qui sommes les réels producteurs, les réels artistes, on a eu cette chance de pouvoir faire, acheter du matériel, faire des studios, etc., et nous enregistrer nous-mêmes. On le fait et du coup, effectivement, moi, depuis 20 ans, je m'autoproduis autant que possible parce que quand je rencontre ces gens qui sont dans les boîtes d'édition, tout ça, c'est très simple. La raison est très, très simple. C'est que quand je les rencontre, moi, je ne les comprends pas et puis eux, ils ne me comprennent pas. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour leur faire plaisir et pour leur faire gagner de l'argent. Enfin, ils me donnent quelques idées, mais... Et eux, ils ne savent pas non plus qu'est-ce que moi, je peux faire pour... Donc, on ne se comprend pas. On n'est pas du même monde. Ce sont des gens qui cherchent du fric. Moi, je suis dans la musique. On n'est pas dans le même monde. Il y a des gens qui sont peut-être des éditeurs, quelques-uns qui restent passionnés de musique. Mais franchement, aujourd'hui, ça fait quand même 30 ans que je pratique un peu le milieu. Je les vois disparaître, quoi. Il y a toujours des passionnés, mais ces passionnés, ils s'expriment autrement. Et voilà, j'en fais partie. Moi, je fais mon... Si je peux squeezer les intermédiaires, j'en suis très content parce que je n'ai pas forcément besoin d'eux. Et comme le paysan qui fait directement du producteur au consommateur, je trouve très efficace. Faut consommer local, et bien c'est très bien. Bon, le musicien, il n'est pas local, malheureusement, c'est un peu contradictoire. Mais autant que possible, directement du producteur au consommateur, j'adore. L'idée me plaît.
Donc on entend que cette souscription s'adresse en fait directement aux gens qui voudrais déjà d'entrée l'acheter en fait.
Je préférais,
et tu fonctionnes comme ça avec tes albums d'ailleurs aussi.
Oui, c'est ça. Je préfère ça plutôt que strictement demander une aide, aidez-moi. Si vous n'êtes pas intéressé par la 12 cordes, ne m'aidez pas, ça vaut pas le coup. Moi, je pense que je mérite d'exister s'il y a un certain nombre de gens qui trouvent que je suis assez bon pour exister dans ce que je fais, je veux dire dans mon métier. Or, pour être assez bon et pour passionner d'autres gens, il faut vraiment qu'effectivement, enfin, je veux dire, il faut que les gens soient, aiment ça et disent oh « ouais, s'il n'y est pas là, ça m'ennuie, je voudrais qu'il y soit ». À ce moment-là, j'ai une raison d'exister. Sinon, il faut que je change de métier. Donc, si on m'aide dans l'idée qu'il faut aider, non, je fais pas la manche non plus. C'est très gentil, ça part d'une bonne démarche et peut-être que dans certains cas, il faut le faire. Mais ce n'est pas ce que je réclame, en tout cas. Non, par contre, ce que je réclame, c'est que si vous êtes vraiment intéressé, alors allez-y, c'est le moment de m'aider. Voilà, c'est ça.
Eh bien, nous, on t'a fait venir, non pas pour t'aider, mais aussi parce que tu joues bien de la musique. Alors, on va en rejouer encore un peu.
On rejoue un peu.
Ouais.
Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire un morceau. Je vais improviser aussi. Hein. Un bout de morceau qui s'appelle « Félix ».
Michel Gentil avec nous sur RDIWA et nous parlons de guitare 12 cordes pendant encore quelques temps. Je pensais justement à cette histoire de guitare 12 cordes au grand public et tu as abordé tout à l'heure. En fait, je voudrais aborder deux choses. D'abord, hors antenne, tu me disais que tu vivais quand même bien de ta musique.
Oui.
Et puis.
Bien, c'est un grand mot, mais.
Enfin, tu vis de ta musique, quoi.
Voilà.
Et donc, tu n'es pas en train d'avoir un autre métier à côté pour tenir. Et puis, l'autre sujet,
je peux remercier le statut d'intermittent parce que si j'ai pu faire cette méthode, c'est parce que ça m'a permis d'avoir du temps pour le faire, un peu d'argent pour le faire déjà. Donc, je n'en serais pas là où j'en suis si je n'avais pas le statut. J'en profite pour le dire parce qu'il est décrié ce statut qui a été fait pour des artistes dans le but de leur permettre, lorsqu'ils ont fini un travail, de pouvoir en préparer un autre.
Voilà, la création.
Aujourd'hui, il y a deux tiers de techniciens chez ces gens, je ne sais pas ce qu'ils font là, et puis les télévisions en profitent, tout le monde en profite, tout le monde mange d'argent des artistes en fait, et c'est une arnaque totale. Cela dit, ce statut, justement, j'insiste, il est tellement décrié. Moi, c'est grâce à lui que je suis encore là et que je peux faire ce que je fais. Donc, merci.
Donc, ce statut d'intermittent qui te permet de temps en temps de créer un nouvel album, ou voilà. la méthode dont on parle.
Voilà.
Et alors, le deuxième sujet, c'est concernant, tu parlais tout à l'heure que les grandes majors se seraient cassées la gueule, c'est d'ailleurs une des raisons possibles, hein, parce qu'elles sortent des tubes et des produits, et on parlait de formatage justement, mais des produits qui sont moyens, moi je suis assez d'accord avec ça, ceci dit, elles continuent toujours à en produire. Et pour moi, une des deuxièmes raisons, une des secondes raisons...
On est en train de les squeezer, là.
Peut-être.
Ça va pas durer 20 ans encore.
Elles vont péter, c'est sûr.
Bah ouais,
mais
elles sont en train, là.
Mais une deuxième raison, peut-être, est-ce que Internet ne contribue pas à la chute, en fait, de ce système capitaliste de vente et commercial, etc.
Capitaliste, non. Pas possible.
Mais parce que tu parlais bien de ce rapport entre l'industrie du disque et puis, éventuellement, le fait d'être producteur.
Oui.
À partir du moment où Internet entre en lice, il y a un paquet de choses de l'industrie qui ne sont même plus vendues.
Sauf que l'Internet est une industrie en soi, c'est ça que je voulais dire, et que ça fonctionne à fond. On va être totalement dépendant, on est déjà totalement dépendant de cet instrument qui est génial, et donc évidemment, le jour où on nous coupe l'électricité, on est mort. Quoi. Donc il faut bien avoir en tête, c'est un outil qui est formidable, hein, c'est vrai un super cerveau mondial pour moi, clairement, parce que... On a accès à... Bon, voilà, tout le monde le sait maintenant. ça me permet de faire des choses, voire même... moi, j'envoie plus de courriers. J'envoyais des centaines de lettres par an pour chercher du travail. Eh bien, voilà, j'envoie des centaines de mails. Cela dit, ils sont... C'est comme le syndrome des aéroports. Vous savez, on croit... On va économiser un temps fou pour aller entre Paris et Lyon. Parce qu'en une heure, paf, on y est. Alors que sinon, il faut quand même 4 heures ou 5 heures en voiture. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut 2 heures pour aller à l'aéroport à Paris. Puis, il faut encore une heure pour sortir de l'aéroport de Lyon. Donc, finalement, en temps... Alors, ce qui est difficile, c'est d'accéder. Et dans l'ordinateur, c'est la même question, c'est-à-dire de faire rentrer les données. Lorsque vous avez rentré les données, bah, c'est immédiat. Mais l'entrée des données est très, 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 très longue. Donc là, il y a aussi un formatage. Donc tout ça, ça se discute. Mais n'empêche, effectivement, par ce système-là, on peut quand même toucher. Et moi, je suis le premier concerné parce que justement, je suis dans ce que je fais là, c'est quelque chose de tellement particulier. Ça ne va pas intéresser. Je ne vais pas vivre en vendant ma méthode en France. Il n'y a pas assez de gens suffisamment intéressés. Par contre, là, j'ai la chance de pouvoir toucher le monde entier grâce à cette invention-là. Donc, je vais m'en servir. Mais je sais que si on me coupe l'électricité, ça sera fini. Donc, je dépends là d'une grosse industrie de type capitaliste par excellence, pour l'instant en tout cas. Donc, voilà.
Et donc, qui dit mise à disposition sur Internet, moi, c'était ça que je voulais aborder, la notion de ce qu'on appelle les pirates, les dangereux pirates. Bon, alors, quel est ton rapport maintenant de musicien avec cette pratique-là, qui est d'un partage unilatéral et sans aucune condition de ce qui appartient à d'autres, enfin, de ce qui a été créé par d'autres, en tout cas, déposé ou pas, d'ailleurs. Et donc, c'est cette question-là, un peu.
Alors, elle est réelle et elle est... toujours en train d'évoluer en ce moment parce qu'avec la technologie. Évidemment, bon, d'un côté, moi, musicien, lorsque quelqu'un me pique une idée et puis en fait un morceau en croyant que c'est le sien, moi, je suis très content parce que je dis que c'est quand même drôlement bien, j'ai trouvé un truc sympa, il y en a d'autres qui l'utilisent, c'est bien. Donc, voilà, moi, ça me rend content. Cela dit, je suis comme tout le monde, comme plombier, il arrive, je ne vais pas lui demander, je ne vais pas lui dire, écoute, je te donne 20 centimes, le plombier ne fait pas la manche, hein, donc... Moi, je ne fais pas la manche non plus, on est dans des boulots. Donc, on a évidemment le droit de manger. Simplement, comment on fait ? Alors, ce n'est pas très facile, parce qu'effectivement, avec le piratage, d'un côté, c'est ambivalent pour nous, parce que d'un côté, on est content parce qu'on nous entend plus, et de l'autre, on se dit, je ne gagne pas d'argent comme j'aurais pu si j'avais pu vendre ce disque qu'on m'a piraté. Donc, on est dans l'ambiguïté. Je pense, cela dit, je ne suis pas un expert, mais je crois comprendre que les gens les plus embêtés par rapport à ces droits-là, c'est justement les grosses sociétés. Et qu'en fait, les musiciens du type que je peux représenter, c'est-à-dire des gens qui aiment bien s'autoproduire et fonctionner à l'artisanal dans le sens noble du terme, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément arrivés sur une petite région, hein, parce que moi, je me déplace quand même vraiment loin. Ces gens-là, on a intérêt à ne pas dépendre de ces gens-là, du système. On préfère dépendre de notre public que de dépendre de gens qui vont... Et le problème, c'est que je crois, à mon avis, les majors n'ont pas fait le bon choix, en France en tout cas, mais même ailleurs, par rapport à, par rapport à la vente des disques. Ils ont ce système de choisir la compétition, parce que leur problème, c'était ça. Moi, il y en a un qui m'a expliqué ça un jour. Il m'a dit, on veut faire un tube. Alors, on a fait un tube là, il y a 3 semaines. C'est génial, on va reprendre les mêmes règles, on va faire exactement pareil, il y a des chances que ça marche. Mais non, on ne sait jamais quand est-ce que ça marche. C'est quelque chose qui est impossible à scientifiser, à mettre, voilà, c'est comme la vie. On ne va pas, bon. Donc, le gars, il croit, il va faire pareil, il espère. Alors, il essaye, paf, il dépense plein d'argent, zut, ça ne marche pas. Une deuxième fois, bah non plus. Il fait ça 8 fois, 9 fois, ça ne marche pas. 10e fois, ça marche. Il a dépensé tellement d'argent que le tube qu'il vient de faire au 10e coup, eh ben, il fait que rembourser ce qu'il a lancé avant. Donc le truc, c'est qu'il aurait mieux fait de faire moins, de pas chercher à faire le gros fric tout de suite, mais de lancer, de continuer les fonds de catalogue comme ça existait autrefois, qui ont disparu il y a 15-20 ans, de continuer d'avoir des gens qui sont pas forcément des gens qui vont leur apporter énormément, mais qui vont leur apporter dans le temps, sur 10 ans, 20 ans. Or, ça n'a pas été la politique ni des maisons de disques, ni des autres sociétés aujourd'hui dans le monde actuel. Donc effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Donc elles ne peuvent pas être efficace pour ce qui est de la créativité musicale. Elles n'en ont pas les moyens, elles ne s'en sont pas donné les moyens. Elles ont d'autres moyens, mais pas celui-là. Et nous, on est tout petits par rapport à eux, mais on existe. C'est la force de la vie. C'est un petit peu comme le petit brin d'herbe qui pousse entre deux pavés sur un boulevard parisien. Puis au bout d'un moment, si on le laisse faire, bah, il écarte les pavés quand même. Hein. Mmh. Donc voilà, nous, on écarte les pavés lentement mais sûrement. Après, on vit notre vie, on fait ce qu'on peut. On essaie
et,
de donner
et puis, il y a cette notion de pas d'intermédiaire aussi, surtout. Ça veut dire qu'il y a quand même plus d'argent potentiellement qui te revient si tu vends c'est un vrai. Disque que si tu en vends 10 en majeur.
Absolument, absolument. Oui, et de toute façon, je pourrais même pas faire le disque que je veux. La méthode là, que je propose, normalement, dans le système actuelle, elle n'aurait pas pu sortir. C'est parce qu'il y a un cinglé comme moi qui est passionné, qui a envie vraiment de le faire, que ça a pu faire. Mais sinon, je le dis sans acrimonie du tout, hein, mais bon, comment dire, le ministère de la Culture a refusé 6 000 euros de subvention pour ce DVD, sachant quand même que ça pouvait... Voilà, il y a un Français qui propose quelque chose qui est nouveau, qui peut être intéressant,
qui n'existe
des gens,
pas.
Qui existe pas, qui peut intéresser des gens dans le monde entier, ça peut représenter quelque chose d'intéressant parmi d'autres...
Voire représenter de la France.
Voilà, voilà. Non mais c'est bien le rôle du ministère de la Culture quand il donne des subventions. Eh ben non, pas d'argent pour ce genre de choses. Bon, on fait tourner les copains et les coquins et voilà. Les choses ne sont pas faites pour ce qu'elles doivent être faites. Il faut les faire soi-même, sinon on n'est pas sûr d'y arriver. Des fois on est aidé, hein, mais je suis beaucoup aidé, mais pas forcément par ces gens-là, c'est pas les mêmes circuits.
Donc si la méthode est faite pour toi-même et que en plus elle intéresse des gens qui te l'achètent, si après elle circule tu ne sais pas comment, c'est pas grave.
Si, je préférerais quand même être sûr de gagner un peu ma vie. Donc on est obligé de mettre c'est une question de dosage. C'est vrai que quand je fais un disque, il y a 15 ans je faisais un disque, 15% du public dans mon concert achetait le disque. Aujourd'hui, moins de 7%. Beaucoup moins que ça. Pourquoi ? Ben parce que moi, je les comprends, je suis comme eux. J'achète moins de disques qu'avant. C'est rare quand j'achète un disque. Et souvent, j'en copie. Et donc, parce qu'un copain me le passe, je voudrais l'écouter, etc. Donc, on est tous. C'est un fonctionnement comme ça. Donc, il faut qu'on trouve des... Alors, à côté de ça, on peut vendre de la musique par Internet, nous, les musiciens, maintenant. Sauf que j'ai signé un contrat il y a quelques années. Les 6 premiers mois, j'ai gagné 0,1 centime d'euro. Les 6 mois suivants, j'ai gagné 1 centime d'euro. Et aujourd'hui, là, au bout de plusieurs années, j'en suis à 1 euro pour l'année dernière. Donc, pas encore efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. On vend moins de disques et on perd. Quand on met notre musique sur Internet, c'est effectivement, comme tu me l'avais laissé entendre tout à l'heure, ben on donne, quoi, finalement. Donc, on est entre deux. On est entre deux. Et on ne peut pas se contenter. J'entends souvent des gens dire, ben les musiciens, ils n'ont qu'à faire des concerts. Oui, mais il y en a qui sont très, très bons pour faire des concerts et d'autres qui sont très bons pour faire des disques, mais pas des concerts. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je ne suis pas dans cette catégorie parce que j'aime bien être sur scène, ça fonctionne bien, etc. Mais je connais des gens qui ne sont pas bons sur scène. Mais par contre, ils méritent vraiment de faire des disques. Ils sont excellents. Mais ils ne sont pas bons sur scène. Ça peut arriver. Ça arrive souvent. Et bien, c'est là, on les oublie. Donc, c'est complexe. On est pris dans un maelstrom qu'on ne contrôle pas tellement et on essaye les uns les autres de trouver des solutions. Par exemple, là, j'essaye donc de sortir cette méthode par mes propres moyens en me disant, bon, ben, j'ai peut-être gagné un peu plus d'argent par méthode. Je vais en vendre 100 fois moins, mais ça va se faire avec le temps et j'espère que ça va faire boule de neige. Si ça ne fonctionne pas, alors, dans un an, je vais aller voir un éditeur ou deux éditeurs ou quelques gros éditeurs et leur dire, s'il vous plaît, monsieur, vous voulez bien m'embaucher pour me mettre... Seulement, je sais avec eux que si je serai probablement bien distribué, je ne vais pas gagner d'argent, quoi. En gros, c'est ça.
Ce sera de la reconnaissance plutôt sur le nom.
Alors, c'est bien. Je serais content d'avoir donné, parce que c'était quand même le but à la base, d'avoir donné ces techniques que j'ai apprises à d'autres qui pourront s'en servir et les relancer ailleurs. Enfin bon, j'aimerais bien vivre un peu aussi, c'est pas mal. Voilà. Je demande la reconnaissance du plombier. Vous voyez, c'est ça. Ça fait quelques années que je demande la reconnaissance du plombier.
Mais c'est une grande question. Je l'aborde assez systématiquement avec les artistes que j'interviewe ici sur RDWA. Cette question de... parce que moi-même et toi-même, tu viens de le dire, tu fais partie des gens qui gravent, qui récupèrent aussi de la musique donc, sans la payer.
Évidemment.
Et c'est cette question-là que moi-même, je me pose en tant que consommateur gratuit.
Ouais.
On va dire de la musique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a plus envie de payer la musique, voire plus envie de payer un support, parce que en fait là il est question du disque ou de l'objet matériel. Souvent je me dis mais parce qu'on ne l'utilise plus. Moi j'utilise quasi plus de disques.
C'est vrai.
Et puis d'un autre côté c'est un matériau qui est périssable, qu'il faut stocker. Enfin il y a tout un tas de choses comme ça.
Ouais.
Et voilà, et puis peut-être qu'on a été trop longtemps habitué à des disques à 15-20 euros.
Oui,
ça commence à être dur pour 12.
De toute façon, les disques ont toujours été chers en France. Ils sont beaucoup moins chers aux États-Unis depuis très longtemps. Et il faut savoir qu'un disque, ça revient à 1 euro. Il ne faut pas exagérer non plus.
À produire.
Oui, donc, ou 2 euros si on veut compter une belle pochette. Donc bon, faut pas, quand on en tire 1000, bon, on peut le vendre à 10 euros, ça va, c'est pas catastrophique. Mais c'est complexe, on cherche. Moi, je vends encore mes disques à 15 euros, par exemple. J'ai des amis qui m'ont dit, écoute, vends-les à 10, tu vas en vendre 3 fois plus. On cherche chacun, dans notre petit artisanat, des solutions partielles. On sait qu'il n'y a rien d'idéal dans l'affaire. Ce qui est certain, c'est que ils nous ont squeezé les gros intermédiaires, donc ils sont pas en bonne position eux pour l'instant. On a intérêt nous à les squeezer aussi. Il vaut mieux c'est plus sécuritaire pour nous. Moi, je me sens plus sécuritaire de dépendre d'un public plus petit, mais plus proche, que de dépendre d'une boîte qui va me dire, écoute, là tu joues pas. Bah finalement, ça s'arrête maintenant. J'ai pas envie de m'être débauché. Non, c'est pas ça, me va pas. Donc voilà.
Et puis on peut terminer peut-être, alors déjà en se rappelant 2-3 coordonnées, donc Michel Gentil, comme un vrai gentil, hein,
ah,
pas G-E-N-T-Y.
ILS donc.
ILS. Et .com donc, et puis parlons concert un petit peu quand même, tu nous annonçais en début d'émission que tu jouais,
Alexis,
peut-être en donner plusieurs.
Alors ici c'est seulement celui-là, mais il est important parce qu'on avait joué il y a 2 ans ensemble avec Alexis Aigi, qui est ce violoniste russe de Moscou.
Qu'on a déjà invité.
Oui, que vous avez déjà invité,
oui,
qui est fantastique, qui joue très 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 bien. Et on avait fait deux petits concerts au Baradi il y a 2 ans, sans faire erreur, qui s'étaient superbement bien passés. Et là, on se croise de temps en temps, on est devenus amis depuis. Et donc là, on a décidé de retenter la chance, de proposer donc une soirée au Baradi le vendredi 3 février, donc dans une semaine et demie maintenant. Et ce que je vous suggère, si ça vous intéresse de venir, c'est de réserver tout de suite, parce qu'il risque d'y avoir du monde, les places sont limitées. S'il y avait trop de monde, on pourrait comme ça se retourner en organisant une seconde soirée éventuellement, à l'avance. Mais pour l'instant, donc, on attend vos réservations au 04 75 22 23 56, c'est-à-dire au Baradi, pour le vendredi 3 février 20h30.
Et sache quand même que RDWA, grâce au podcast, est écouté un peu partout en France et dans le monde. Donc
on m'a dit, Louis m'a dit ça,
tout à fait.
Même de façon assez extraordinaire.
De façon assez extraordinaire.
Ça, c'est bien, bravo.
Donc si tu as d'autres concerts ailleurs, tu pourrais en citer quelques-uns.
Alors,
quand même.
Non, là, je suis dans une période où j'ai peu de concerts. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis en train d'essayer d'organiser une tournée pour fin juin à Montréal, donc c'est un petit peu loin. Si, je vais en avoir un à la chapelle de Fitou, du côté de Montpellier, en juillet. J'ai pas grand chose ces prochains temps. J'ai pas beaucoup cherché non plus, je dois dire, parce que j'ai.
Tu te remets de cette méthode ?
Oui, c'est ça, j'ai bossé comme un fou. Non, mais le DVD m'a pris un temps fou toute l'année dernière. Donc j'ai travaillé à temps plein sans pratiquement faire de concert, donc sans chercher de concert. Donc là, je m'y remets. Et donc je suis dans une période où je joue assez peu, mais j'ai joué à la maison. Et je travaille beaucoup plus sur l'ordinateur que sur mon instrument, comme le font la plupart des professionnels dans tous les domaines aujourd'hui.
Ce qui est mon cas également.
On est tous sur l'ordinateur comme des fous. Heureusement, il y a la montagne ici qui fait qu'on peut se décharger de notre électricité statique et de l'énervement que ça procure. Voilà.
Je te remercie, Michel.
Merci à vous de m'avoir invité. Puis j'en profite pour passer un grand bonjour à tout le monde dans le DIWAP, en espérant que... En souhaitant une année joyeuse et pétulante, parce qu'on a intérêt à prendre de l'avance vu ce qu'on nous raconte là maintenant. Voilà.
Oui.
Donc bonne année à tous.
Est-ce que tu nous ferais pas nous quitter en musique une dernière fois?
Qu'est-ce que je vais vous jouer? Si vous me donnez une minute pour réaccorder deux de mes cordes,
oui,
les passer du ré au mi, je vous fais un mini morceau qui s'appelle Cactus. Et que j'ai composé il y a très longtemps, mais qui va tout de suite.
Alors on fait ça en direct.
Disons dans l'ambiance et sans mystère, quoi. Très court, comme ça. Cactus.
Magnifique.
Donc joyeuse et pétillante à l'année.
Merci Michel. Retrouvez donc
cette
interview sur RDWA, www.rdwa.fr, et puis on mettra le lien vers ton site.
Formidable.
Et voilà.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.